Bienvenue à Scal 16-17 avec Fulgence Blanc au micro, c'est la dernière de la semaine. Oui, on va démarrer cette émission avec mon invité Jean Roy, qui est producteur, je sais pas, il a tellement de titres, producteur, documentariste, réalisateur, scénariste. C'est pour la série documentaire Du Côté des Hommes. Voilà, c'est 6 épisodes, ça passe actuellement sur Savoir Média. Et quand j'aurai fini avec lui à 16h30, mon chroniqueur de comic book, Christian Lacasse, il va parler de l'intrigue policière et les grands détectives des années 30. Voilà. Alors, et puis bon, ben, j'ai préparé quelque chose. Je vais parler aussi des concerts en lien avec l'exposition à plein volume, Basquiat et la musique. Ça se passe à la salle Bourget au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Alors tout de suite, pour ne pas faire attendre Jean Roy, je vais lui laisser le micro. Bonjour Jean Roy.
Bonjour.
Allô?
Oui.
Alors oui, vous m'entendez?
Oui, très bien.
D'accord, merci d'avoir le temps de venir parler de cette série documentaire Du Côté des Hommes.
Ça me fait plaisir.
Voilà, et puis bon, ben, je n'ai pas encore vu tous les épisodes, mais ce que j'ai vu, j'ai commencé par l'éducation. Ça m'a beaucoup bousculé, cet épisode-là.
D'accord.
Oui. Alors, d'où est venue cette idée-là? Du côté des hommes. Est-ce que vous pensez que nous, les hommes, nous n'avons plus cette masculinité d'antan, si on fait le résumé comme ça, ma manière, quoi? Voilà.
Je vous dirais que malgré qu'on pense qu'on a évolué,
oui,
il y a encore beaucoup de choses traditionnelles qui sont en nous, oui, comme peut-être à l'état même de fossiles, même.
Oui.
Alors, l'idée originale remonte à il y a 2 ans, en fait, parce que à l'époque, on a sorti une série de 6 épisodes de 30 minutes,
oui,
pour Savoir Média, mais c'était sur les femmes. Et on a fait une série thématique, donc, sur l'histoire des femmes québécoises.
Oui, oui, 50 ans de...
50 ans d'avancée des femmes. C'était une série à saveur historique, oui, mais qui, malgré qu'on faisait des allers-retours dans le temps, on était très actuel pour voir à quel point les femmes avaient fait des gains depuis 50 ans.
Oui.
Maintenant, donc nous, après, on a déposé un autre projet à Savoir Média, et puis ils nous ont dit, ben écoutez, il n'y a peut-être pas ce projet-là, ce sujet-là, mais dans le fond, ça touche aux hommes, votre sujet. Si vous faisiez le pendant masculin de la série des femmes que vous avez fait il y a 2 ans, on aimerait ça.
Oui, oui.
Alors, on a trouvé ça très intéressant. C'est bien sûr, oui, il y a quelque chose à dire sur les hommes d'aujourd'hui au Québec. Mm-hmm. Quelque chose qui ne se dit pas, finalement, quelque part. Et bon, moi, en tant, vous avez raison, je porte plusieurs chapeaux. Alors, je suis producteur, je suis scénariste, je suis réalisateur.
Oui.
Je n'étais pas le réalisateur de la série sur les femmes, puisque, évidemment, on a demandé à une femme de le faire.
C'est ça.
Mais sur cette nouvelle série sur les hommes, donc, moi, je voulais m'impliquer, mais à condition qu'on puisse parler de 2 sujets qui m'intéressaient particulièrement.
Lesquels?
C'était la masculinité.
Oui.
Comme telle. Et parce que l'ensemble de la série, c'est un peu la masculinité, mais je voulais spécifiquement faire un épisode sur la masculinité.
Mm-hmm.
Et l'autre épisode, c'était pour moi essentiel, c'était la santé mentale, parce que je pense,
oui,
que c'est le sujet de l'heure.
Ouais, ça, on peut pas passer à côté.
Voilà. Alors, on a travaillé très fort, parce que, dans le fond, c'est le résultat, c'est 6 épisodes de 30 minutes, mais c'est le résultat d'un an de travail.
Mm-hmm.
La différence, je vous dirais, si vous me laissez aller comme ça, d'emblée, je vais vous dire, quand on a fait la série sur les femmes, ça a été très facile, ça a été très facile de trouver des recherches, de trouver des expertes. Ça a été simple parce que les femmes, je dirais, sont étudiées sous toutes les coutures dans nos universités.
Oui.
Et quand on est arrivé à travailler sur les hommes, on a fait comme, aïe, 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 mais il n'y en a pas de recherche. Là, il faut travailler fort.
Oui.
Alors, les recherchistes se sont démenés, ont essayé. Des fois, les sujets ont dévié un peu parce que forcément, par exemple, si je prends l'épisode sur le travail, il y a spécifiquement sur les hommes, il n'y a rien. C'est vide. Parce que le monde du travail, là, c'est mon analyse, si vous voulez, mais le monde du travail ayant été longtemps masculin,
oui, oui.
Ben, toutes les études, même aujourd'hui, se font en regard du travail traditionnel, c'est-à-dire masculin.
Oui.
Donc, c'est toujours dans le fond, on va toujours voir comment les femmes travaillent, comment les femmes font au travail, c'est quoi la santé mentale souvent des femmes au travail. Mais, oui, quand on arrive pour poser la question, les hommes, comment ça va au travail? Ben là, personne ne peut nous répondre.
Oui, c'est ce qui fait qu'il y a... c'est ce qui fait, je ne vous coupe pas la parole, Jean, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de maisons pour les femmes, pour leur venir en aide, pour les soutenir par rapport aux hommes. Un homme dans une telle situation, il aura de la difficulté à trouver une maison de ce genre ou bien un encadrement professionnel au sens propre du terme.
C'est plus difficile. Dans l'épisode de la santé mentale, on a aussi mis en lumière le fait que les symptômes de la dépression ont été définis en fonction de ce que vivaient les femmes en dépression.
Oui.
Et donc, c'est difficile de se fier à ces guides-là pour décider si un homme est en dépression. Par exemple, là, moi, je parle, c'est la somme de ce que les experts nous disent, là, c'est ce qui est dans l'épisode.
Oui.
On nous dit, ben, écoutez, quand une femme elle est déprimée, souvent, elle va s'habiller différemment.
Mm-hmm.
Elle va changer sa façon de s'habiller, de se vêtir, d'agir.
Oui.
Et un homme ne va jamais changer de façon de s'habiller. Il s'habille habituellement pareil 365 jours par année.
Oui, donc, on a tout. Mais Jean, c'est normal. Quand on va dans les magasins, on a toujours les mêmes chemises, les mêmes couleurs, les mêmes pantalons. Moi, quand je rentre dans un magasin mixte, homme-femme, je suis toujours jaloux parce qu'on n'a même pas de variété.
Ça, c'est vrai. Mais vous voyez, c'est ça la difficulté. Alors, souvent, les hommes, ben, c'est difficile de vraiment d'étiqueter quelqu'un, un homme, comme quoi, bon, ben, il est peut-être en dépression. C'est plus difficile qu'avec une femme.
Oui.
Alors, je pense que la série met en lumière une série de problèmes comme ça que les hommes vivent. C'est quoi la réalité des hommes au 21e siècle au Québec?
Oui.
Mais c'est différent des femmes, tout simplement. Puis notre série, je veux absolument le dire, c'est pas une série contre les femmes.
Ah non, c'est pas comme. Même quand j'ai cette histoire de j'ai trouvé ça. C'est là que j'ai appris aussi qu'il y a beaucoup plus de femmes dans les écoles, dans les grandes écoles, dans les universités, même au cégep, au secondaire, tout ça. Il y a beaucoup plus de femmes, filles qui réussissent plus que les garçons.
Oui, tout à fait.
La plupart des gens qui décrochent, c'est des garçons, ce ne sont pas les filles qui décrochent.
Exact,
oui.
C'est vrai.
Mm-hmm.
Y a plein de choses qu'on a découvert en faisant la série. Moi, par exemple, bon, on dit toujours qu'il y a 52 femmes pour 48 hommes dans la société. Hein. Il y a toujours plus de femmes dans la société.
Oui.
Mais là, j'ai appris qu'il y a plus d'hommes qui naissent. Alors, pour 100 femmes qui naissent, il y a 104 hommes qui naissent.
OK. Mais,
alors, pourquoi tout à coup ça s'inverse, la proportion,
oui.
Plus tard, ben c'est que les hommes vivent plus de risques et ils en prennent plus.
Ah.
Et donc, ils meurent plus.
Ah.
Il y a toujours plus de jeunes garçons qui meurent que de jeunes filles.
Que de jeunes filles, OK.
Oui. Au même âge, il y a toujours plus de risques pour les hommes. Puis notre expert qui est là, qui en parle de ces vulnérabilités masculines,
oui.
explique que, bon, en plus, si on faisait le portrait de la criminalité, ben souvent, c'est qui est criminel? C'est beaucoup plus les hommes que les femmes.
Oui.
Donc, c'est encore un autre facteur de risque que les hommes ont, mais dont on ne parle jamais, on n'apprend pas ça.
Non. Et puis, vous avez touché à tout, hein, la sexualité, la paternité, le travail, l'éducation, la santé mentale et la masculinité. Mais comment vous avez pu convaincre Danny pour être le narrateur, Danny Turco?
Ah oui, ça c'est... Ben écoutez, ça a été relativement facile. C'est ma collègue productrice qui a eu l'idée de Danny.
Oui.
France Choquette, je la nomme parce qu'elle est importante dans le processus. Et puis, on s'est dit, ben c'est vrai, pourquoi pas? Bon, d'abord, on le voit plus beaucoup.
Oui.
Qu'est-ce qu'il fait, etc. Et puis,
depuis son départ, de Tout le monde en parle.
Exactement, c'est ça. Et c'est une masculinité différente aussi, parce que, bon, on veut pas proposer nécessairement, nous, qu'est-ce qui est mieux, là, ou on veut pas dire, il faut que les hommes agissent de telle façon, c'est pas ça qu'on veut faire.
Ah non, c'est mais pas ce que j'ai compris dans ce que j'ai vu comme épisode, quoi, non.
Tant mieux, pas... mais on voulait pas arriver avec quelqu'un qui a une masculinité, qui est identifié à une masculinité traditionnelle, si vous voulez. On voulait arriver avec quelqu'un qui propose, justement, une masculinité un peu différente.
Oui.
Bon, lui... Il l'a avoué franchement qu'il est sorti du placard, il est homosexuel, il a aucun complexe par rapport à ça. Il a aussi parlé de ses problèmes sur les réseaux sociaux, avec les gens qui lui écrivaient des saletés.
Mmh.
Alors ça, on trouvait ça intéressant et positif comme personnalité à l'écran pour la série. Et quand on lui a proposé de présenter la série, il a d'emblée dit oui, honnêtement... avec un grand enthousiasme.
Oui.
Lui, c'est un peu un tournant qu'il veut faire vers le documentaire aussi. Il a des projets documentaires. Donc, c'était un peu comme un baptême du feu pour lui.
Oui.
Façon soft, finalement, de le faire.
Mm-hmm.
Alors, il a embarqué dans le train très, très vite et avec beaucoup d'entrain, justement.
Oui, oui, oui. Oui. Alors, pourquoi vous avez démarré tout de suite? Moi, cet épisode-là, l'éducation, ça dit que les garçons réussissent moins bien que les filles à l'école, et pas seulement au Québec, hein. C'est mondial, c'est une affaire, c'est pas seulement dès la maternelle déjà que l'écart s'amorce puis se creuse au fur et à mesure que ces jeunes gens avancent dans les études, hein. Je me dis, mais au fait, c'est dû à quoi? Et puis, le témoignage du jeune homme qui était avec ses amis, bon, celui qui voulait se montrer vraiment homme, qui était capable d'aller faire pipi sur la voiture de la police. Pour épater la galerie, il a fallu qu'il rencontre une femme qui est posée, qui a fait de hautes études, pour que lui se remette en études. Ils ont un enfant, il est très content.
Oui.
Donc c'est elle qui l'a changé, ce garçon.
Oui, oui, mais heureusement qu'il y a des femmes. Hein?
Oui. Nos mamans, nos sœurs, nos amis, oui.
Mmh. Oui, mais vous voyez, l'écart se creuse. C'est vrai que c'est mondial comme problème, entre guillemets. Alors, est-ce que c'est un problème si c'est mondial? Peut-être que c'est normal que les femmes performent plus à l'école.
Oui.
Maintenant, ici au Québec, par contre, l'écart se creuse tout le long du chemin sur l'éducation.
Mm-hmm.
Et il se creuse plus fortement qu'ailleurs. Et on arrive à des cas dramatiques là où il y a beaucoup moins d'hommes dans les hautes études. Alors, la difficulté que nos experts ont évoquée, c'est vraiment au niveau de la lecture en très bas âge. C'est dès l'apprentissage de la lecture, les jeunes garçons éprouvent plus de difficultés. Alors,
ah bon?
Là, ce serait ça le problème majeur, en fait.
Mm-hmm.
C'est que les jeunes garçons éprouvent plus de difficultés à la lecture.
Oui.
Et là, il y a plusieurs facteurs, peut-être. Hein? Donc, il faut mieux. Moi, je pense que c'est un des objectifs de la maternelle 4 ans, c'est de dépister rapidement ces cas-là qui ont de la misère pour pouvoir les amener plus facilement sur le droit chemin de la lecture, finalement.
Mm-hmm.
Parce que la lecture, c'est le début. Si on sait lire, si on sait écrire, après, on a plus de facilité à faire nos travaux. Puis là, ça nous lâche jamais. Hein. C'est une fois qu'on écrit, on peut plus facilement comprendre les textes,
oui.
etc., etc. Donc, ça va nous aider tout le long de notre parcours scolaire et de notre vie. Et donc, il faut dépister très rapidement ceux qui ont des difficultés de toutes sortes. Bon, oui, on pense au TDAH, au TDA, mais il y a toutes sortes d'autres choses aussi. Je pense que les garçons, on a tendance à peut-être à les asseoir moins pour être plus tranquille, jeune.
Oui.
Pour dessiner, on a l'impression qu'un garçon, il faut que ça bouge tout le temps. Est-ce que c'est vrai? Moi, je pense pas. Alors, en fait, bon, donc il y a le problème de la lecture, de l'écriture au tout début, et ça, c'est dans nos écoles que ça doit se régler, beaucoup dans les familles, mais aussi à l'école.
Oui.
Ça, c'est le cas particulier. Après ça, là, il y a peut-être une réinvention de l'école qui peut être faite, je sais pas. Ça reste ouvert comme solution.
Oui. Et on va parler un peu de l'épisode 3, la paternité. Ils ont l'implication grandissante d'ailleurs des pères auprès de leurs enfants. Le cliché du père pourvoyeux et absent perdure. Pourquoi? C'est dû à quoi ça?
Ben, je vous dirais, ce qui ressort surtout de cet épisode-là, de la paternité, dans notre série, c'est vraiment que c'est très positif.
Oui.
85% des pères québécois prennent le congé de paternité.
Oui. Avant, ça n'existait pas.
Non, moi, quand j'ai eu mes enfants à la toute fin des années 90, ça n'existait pas.
Oui.
Bon, alors, certains, moi, j'ai pris quelques journées seulement, c'est tout, quand ma fille est née, quand mon fils est né.
Mm-hmm.
Après, là, ça a été instauré en 2005 ou 2006.
Oui.
Et ça s'est devenu très populaire. C'est 85% des hommes qui le prennent maintenant.
Oui.
Mais bon, est-ce qu'ils prennent aussi une partie du congé de paternité? Parce qu'il y a aussi, il y a pas paternité, mais de parentalité. Parce qu'il y a une portion qu'ils peuvent aussi prendre à la place de leur copine. Bon, ça, c'est plus difficile. Ça va probablement venir. Et je pense qu'on démontre dans l'émission aussi l'importance du rôle du père.
Mmh.
Quand un père est présent, l'enfant va beaucoup mieux au niveau de l'école, au niveau social, dans toutes les sphères de sa vie.
Oui.
Et ça, c'est vraiment, ça, je pense que c'est très positif. On rejoint à ce niveau-là les pays scandinaves. On est vraiment avancé à ce niveau-là.
Ah, ils sont très familles là-bas dans les pays scandinaves.
Oui, c'est ça. Mm. Alors, ça, je pense que c'est très positif. C'est notre épisode le plus positif dans la série.
La santé mentale en est à brosser, c'est ça. Le travail, les relations, la relation des hommes avec leur carrière a fortement évolué. Mais les écarts avec la vie professionnelle de leur comparse féminine persistent.
Oui. Je vous dirais l'aspect positif que quelqu'un évoque, une experte évoque dans cet épisode-là, c'est que les hommes... on s'en doute, là, mais les hommes ont plus tendance à mieux négocier leur salaire. Ils veulent se tracer un chemin dans la vie, une carrière.
Oui.
Et ils se voient grimper les échelons. Ils se voient négocier leur salaire très bien. Ce que les femmes ont de la misère à faire.
C'est dû au fait qu'ils ont une famille à nourrir ou bien quoi?
Je pense que c'est, je sais pas, c'est traditionnel. Je pense que l'homme traditionnel est habitué de... Il va chercher le steak, finalement.
Oui, oui, oui.
C'est le pourvoyeur. Ah,
je comprends, oui.
Mais là, les femmes, par contre, sont de plus en plus en demande sur le marché du travail.
Oui.
C'est les femmes qui gagnent souvent les appels d'offres. C'est souvent les femmes que les employeurs recherchent en ce moment. Les hommes n'ont pas tellement la cote au niveau du travail.
Oui.
C'est ce qu'on a découvert. c'est une adaptation là où les hommes avaient toute la place.
Oui.
Depuis 50 ans, ils ont dû en laisser une partie. Et là, récemment, ce qui arrive, c'est que dans les hautes sphères des entreprises, c'est les femmes qui prennent les places. Et les hommes de notre génération, de ma génération, là, je parle pour moi, 50 ans, 60 ans,
oui.
Ben, ces gens-là, ces hommes-là, ils se font même congédier. Ils perdent leur emploi. Ils n'ont pas la cote en ce moment.
Wow. On va terminer avec l'épisode 2. La sexualité.
Oui.
Oui, où il y a des gens, des hommes qui se bombent la poitrine, qui mentent d'ailleurs.
Allègrement.
Sur le prouesse sexuelle, alors que ce n'est pas le cas dans la réalité.
Semblerait bien, oui.
Oui. Pour faire croire à leurs amis qui ne sont, pas inactifs.
Est-ce qu'on va voir la fin de ça un jour? Je ne sais pas. Est-ce que c'est inhérent aux hommes de se vanter? Peut-être.
Oui. Oh.
Moi, ce qui m'a frappé là-dedans, c'est le premier expert, d'ailleurs, qui nous dit, l'anxiété de performance chez les hommes, au niveau sexuel,
oui.
Elle est là au début de la vie sexuelle. C'est normal, même avant le début de la vie sexuelle, parce qu'il y a beaucoup de poids, semble-t-il, que les jeunes hommes se mettent sur leur tête. Ils se disent que c'est eux qui doivent tout savoir, c'est eux qui doivent faire jouir leur partenaire, c'est eux qui doivent... Mais est-ce que c'est vrai? Non, je pense pas. Je pense que ça peut se vivre à deux, puis que chacun ait sa part de responsabilité là-dedans.
Mais...
Bon, et donc...
Surtout qu'il n'y a pas de guide manuel.
Mais exactement, c'est ça. Alors, il faut se laisser guider, c'est bon, hein?
Voilà!
Mais cette anxiété de performance-là, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'elle est là, présente au début, effectivement, mais les hommes la retrouvent vers la fin de leur vie sexuelle.
Ouais. Ah.
Et là, c'est plus dramatique. Parce que là, bon, est-ce que quand on commence à être un peu malade, quand on a des maladies, ou seulement être de plus en plus vieux,
oui.
Ben là, il y a de plus en plus d'angoisse. Est-ce que je vais encore pouvoir satisfaire ma partenaire ou mes partenaires?
C'est ça.
Est-ce que je vais pouvoir... je sais pas, moi, avoir encore du plaisir, etc. Alors ça, c'est troublant quand même, je pense.
Ouais, certaines
les hommes,
raisons,
ils sont vraiment conscients de ça, de ce qui les attend plus tard. Je pense qu'il y a tellement de non-dits dans la sexualité des hommes qu'on n'est même pas là. On n'est même pas en train de discuter de ce qu'on va affronter ou vivre.
C'est ça. Oh, merci beaucoup, Jean-Roy. Et puis, bon, pour ceux qui n'ont pas encore vu ces 6 épisodes-là, ça est sur Savoir Média, savoir.media, ouais.
Oui.
Allez-y là-bas, depuis le 11, hein, depuis 3 jours. Et puis, je vous dis un grand merci. Et puis, sur YouTube aussi, on retrouve ces épisodes-là.
Ils sont sur le web, sur savoir.media.
Voilà.
Mais à la télé aussi, la plupart des gens ont savoir.media aussi sur leur câble, ou même pas sur le câble, c'est vraiment sur le d'emblée, là, tout le monde l'a.
Oui, oui, oui. Vidéoton, c'est 622. Bell Télé, c'est 152. Bell Fibre, c'est 1147 ou 147. Voilà. Chao, c'est 738. Et puis TELUS, 712. EcoGeco, 47.
Voilà. Donc, ça, c'est toutes les semaines, le mardi, 22h, chaque semaine.
Chaque semaine.
Il y a un épisode nouveau.
Merci beaucoup, Jean Roy. Producteur, réalisateur, scénariste, et puis bon, ben, j'espère qu'on vous reparlera pour bientôt une autre série documentaire.
Mais pourquoi pas?
Ouais.
Je vous remercie beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Au revoir.
Some of them keep for me. Every time the people jump in, some of them wanna whine for me. Some of them boogie down for me. We love the way the ladies will whine for me. Everybody now, like a hey. Everybody, hey. I like the way you do it, hey. My DJ said, all my ladies will whine on me. See girls said, hey. All my boom boom, yeah, you there. All the ladies who run out there.
Maya Sanko. Voilà, voilà. Merci beaucoup à Jean Roy qui est venu nous parler de cette série documentaire du côté des hommes. Il y a les différents épisodes. Allez-y les voir là-bas sur Savoir Média et puis sur toutes les, voilà, toutes les télés, quoi. Bon, c'est en ligne depuis le 11 octobre. Voilà, moi, je n'ai pas encore vu tous les épisodes. Je vais aller tout regarder parce que ça touche à tous les domaines concernant la vie des hommes. Nous, les hommes, c'est pas une revendication. C'est pour juste voir comment le comportement des hommes dans cette société, ce 21e siècle, disons, que ce soit au travail, à l'école, dans l'éducation, et en tant que parent, sexualité, et tout. 6 épisodes de 30 minutes. C'est pas, ça se voit facilement, quoi. Voilà. Je vais continuer avec mes occasions de bénévolat avec Accès Bénévole, qui fête ses 20 ans bientôt, là, le jeudi 20. Octobre, donc je continue. Accompagnement d'une personne, c'est les occasions. Hein. Accompagnement d'une personne à son rendez-vous médical, ça c'est un bénévolat régulier. Selon vos disponibilités et l'horaire de rendez-vous des bénéficiaires en journée du lundi au vendredi. Voilà. il faut avoir le temps. La cause, c'est l'isolement, touche de plus en plus de personnes. Et puis, faites votre différence, quand même, une différence en devenant bénévole en accompagnement de transport avec votre voiture. Si vous en avez une, vous contribuerez ainsi au maintien des personnes en perte d'autonomie à domicile et à une meilleure qualité de vie pour cette population. L'offre, c'est vous accompagner un adulte ou une personne âgée en perte d'autonomie à son rendez-vous médical. Vous écoutez, rassurez la personne au besoin, vous l'aidez à se déplacer, vous attendez avec elle et vous la raccompagnez à son domicile. Le transport peut se faire avec votre voiture ou en transport adapté. Voilà, il ne suffit pas d'avoir forcément une voiture personnelle. Ça se fait aussi parce qu'il y a des voitures, des transports adaptés qui sont mises à la disposition de ces personnes-là. Voilà, ouais, allez-y. Prérequis, personne fiable, patiente, aimant le contact avec les gens, avoir 18 ans et plus, vérification des antécédents judiciaires. Secteur Est de l'île de Montréal. Et puis les jumelages aussi sont faits par le plus possible en fonction du lieu de domicile du bénévole ou du bénéficiaire. Remboursement, frais du véhicule à 55 du kilomètre. Voilà, c'est comme ça. Voilà, une autre occasion, animatrice bénévole, c'est régulier, parce qu'il y a le bénévolat volant, ça dit c'est pas régulier, c'est volant, c'est une seule fois, et puis c'est fini. Voilà, l'activité d'animation ou de co-animation est une fois par semaine, c'est une fois par semaine, parfois une fois par mois, de jour, de soir ou la fin de semaine, selon les disponibilités, les intérêts du bénévole, et puis le bénévole peut ou doit assister aux rencontres de formation et de supervision qui sont offertes par deux professionnels ferrés dans le domaine du un mardi sur deux de 9h à 12h. Alors, ça c'est clair, ça se passe. Je vais revenir sur ça en la semaine prochaine, restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, mon chroniqueur de Comic Book, il est déjà là, Christian Lacasse. Restez à l'écoute tout de suite. Il vient toujours avec de nouveaux sujets.
Vous écoutez Escale 16-17 avec Fulgence Blas.
Oui, c'est la deuxième partie de l'émission. Christian est assis en face de moi.
Absolument, mon cher voilà. Fulgence, comment vas-tu cette semaine?
Je vais bien.
Oui,
je vais bien. Je vais très, très, très bien.
D'accord.
Voilà.
Cette semaine, oui. Un instant. On fixe le micro.
Ah, de la bonne façon, voilà. Voilà. Désolé. C'est les joies du direct.
C'est le joueur du direct. Oui, et non, je vais bien. Toi aussi?
Oui, absolument.
Quand je venais, il y avait un peu de soleil, là. On n'a pas eu de soleil toute la semaine.
Il y a toujours du soleil le vendredi quand je m'amène ici. Il y a un signe de quelqu'un en haut qui me fait un signe, ça c'est
qui
sûr.
Qui te fait signe.
Absolument.
Alors, Christian, tu vas nous parler aujourd'hui de cette histoire d'intrigue policière avec les grands détectives des années 30.
Oui, dans la bande dessinée américaine,
oui.
Que ce soit dans le comic book, comic strip ou également les magazines.
Oui.
Faut dire que je reviens dans le temps cette année avec une chronique un peu plus du temps, de l'époque. La période de...
Mais on était là la semaine passée aussi, les années 30.
Non, la semaine passée, on était dans les 30 ans de Image Comics.
Ah, OK, d'accord.
Des fois, on fait des sauts comme ça dans le temps.
Image Comics.
Absolument.
Ouais. Allez, on y va.
Donc, la période de 1920 à 1939 ouais. est considérée comme l'âge d'or de la fiction policière. On pense ici aux romans d'Agatha Christie et des détectives qui aiment trouver des indices pour faire avancer leurs enquêtes. Le genre policier a vraiment décollé en Amérique dans les années 1930. Les auteurs et les lecteurs recherchaient des romans policiers davantage basés sur la réalité, sur la façon dont les crimes réels se produisaient. C'est donc le début du genre qu'on a appelé le genre détective, rude et rusé. On s'en prend autant aux petits criminels qu'aux criminels organisés, avec violence et de façon sans équivoque. Donc, on se débarrasse du criminel à la fin. On l'emprisonne pas, on s'en débarrasse.
Ah, moi, d'accord.
C'est un genre qui a été transposé dans le monde de la bande dessinée, donc dans les comic strips, les magazines et un peu plus tard dans les comic books. Une des raisons qui explique pourquoi ce goût de l'intrigue policière et des histoires de détectives à l'époque, ben on est en pleine période de Grande Dépression. Les gens ont besoin d'un divertissement, mais un divertissement à la fois direct et un petit peu plus concret, basé sur du réel. L'actualité de l'époque fait état régulièrement d'histoires de crimes organisés.
Parce que quand on parle de Grande Dépression, c'est la vie était morose, quoi.
Voilà.
C'était pas vraiment ça, quoi. Voilà. Il fallait quelque chose pour s'échapper un peu.
Oui, on a besoin de sensations fortes.
C'est ça.
Et dans les médias, on parle beaucoup de crimes organisés, de meurtres sordides. C'est l'époque d'Al Capone et des criminels qui deviennent des vedettes.
Le petit bonhomme, là.
Voilà.
Qui a fait fureur à New York, aux États-Unis.
Il s'est fait emprisonner à Alcatraz. Donc, les gens recherchent ces histoires policières-là et le détective, surtout, devient une espèce de personnage exutoire pour le lecteur. Mmh. Celui qui va lutter contre le crime par tous les moyens et qui va peut-être enfin réussir à enrayer le crime et la misère dans la société pour de bon. Petit aparté ici, je vais parler des magazines ici. Le genre intrigue policière devient très populaire dans les magazines. Mm-hmm. Là, je parle pas ici de magazines prestigieux à grand tirage comme Times Magazine. C'est plutôt une sous-catégorie de magazines qu'on appelle les pulp magazines.
Okay.
Ils apparaissent vers la fin du 19e siècle et ont été publiés jusqu'à dans les années 50. Ce sont des magazines de fiction, qui sont peu coûteux, qui renferment des histoires de tous les genres. D'habitude, des histoires considérées comme de moindre qualité. Des magazines qui sont surtout connus pour leur aspect sensationnel et macabre.
Et ils se vendaient quand même, ils arrivaient.
Absolument, il y avait un public pour ça.
Oh, wow.
Et les couvertures sont souvent violentes et provocatrices quelque peu.
Oui, je vois ici.
J'en ai apporté un exemple.
Spicy Detective, février. 25 cents.
Absolument,
ça
absolument. Parce qu'il y avait environ 128 pages par magazine. C'était assez volumineux.
OK.
Le mot pulp, pourquoi pulp magazine? Ben, ça fait référence à la qualité du papier utilisé.
Ah.
C'était une espèce de pâte de bois bon marché et on l'appelait ça pulp à l'époque. Et on fait, bien sûr, quand on parle de pulp fiction avec Tarantino, le pulp, donc des histoires de moins bonne qualité. C'est un détail.
Oui.
Donc, à partir des années 30, il y a plusieurs pulp magazines qui sont dédiés exclusivement aux intrigues policières. On pense entre autres à The Phantom Detective, All Detective Magazine, Spicy Detective. Mm-hmm. C'est dans les pulp détectives qu'on retrouve les premières apparitions de Flash Gordon et de Shadow. Pour ce qui est du comic book, c'est plutôt vers la fin des années 30 qu'on commence à s'intéresser au genre policier. Il y a des intrigues qui font leur apparition ici et là dans diverses publications, mais surtout des publications humoristiques. Mais on sent qu'il faut capitaliser sur la popularité du genre. D'ailleurs, une des preuves qu'à l'époque, ça devenait de plus en plus populaire, en mai 1936, le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, contacte le dessinateur Rex Collier et lui propose une bande dessinée basée sur des histoires vraies d'agents du FBI. Quelques mois plus tard, il s'exécute et il publie la série War on Crime.
Mais comment le FBI a réagi?
C'était avec l'approbation du chef du FBI, donc ça a fonctionné.
D'accord. OK.
Donc, dans le numéro 27 de Famous Funnies, j'en ai parlé, Famous Funnies, dernièrement, c'est considéré comme la première histoire de vrai crime dans les comic books.
Wow.
Jusqu'à la fin des années 30, les comic books policiers ou de détectives sont tous des espèces de recueils de plusieurs histoires. Il y a des histoires qui sont policiers, il y a des histoires qui ne sont pas du tout.
Oui.
Il faut attendre 1942 pour voir le premier comic book exclusivement dédié aux intrigues policières. Mm-hmm. Et ça s'appelle Crime Does Not Pay. Le crime ne paie pas.
Le crime
mais
ne
on sait
pas.
Bien que ce n'est pas vrai.
Voilà. Faut pas dire ça, Al Capone.
Oui, exact. Maintenant, quelques-uns des grands ou moins grands détectives des années 30. Le premier, et non le moindre, Dick Tracy. C'est le détective le plus populaire de la période. Il a été créé par Chester Gould et a fait ses débuts le 4 octobre 1931.
Mais ça se vendait à $1, juste $1.
Ça, c'est un. Ce que tu vois, j'ai apporté une image, c'est un recueil.
Ah, moi, d'accord.
Parce qu'il était distribué dans les journaux, le Detroit Mirror en premier lieu. C'était un comic strip.
OK.
Dick Tracy, c'est un détective dur, intelligent, qui utilise la science médico-légale, des gadgets avancés et de l'esprit dans son combat contre pour la justice. Sur un plan visuel, ben on le reconnaît par son légendaire chapeau et imperméable couleur jaune,
sa
mâchoire carrée, sa montre radio ultra sophistiquée. Et fait intéressant, Dick Tracy, c'est son deuxième nom. En fait, son créateur, Chester Gould, voulait l'appeler, et je ne sais pas pourquoi, Plain Clothes Tracy.
Oh ben c'est trop long ça.
Mais qu'on pourrait traduire par vêtements simples Tracy.
Ouais.
J'ai aucune idée pourquoi.
Mais Dick aussi c'est.
Mais regarde, son éditeur qui propose à Chester Gould de le nommer Dick Tracy parce que le mot Dick, ce n'est pas ce que vous pensez. Parce que dans le jargon populaire de l'époque, c'était un autre mot pour signifier détective. On parlait de Private Dick pour détective privé. Alors, ça voulait pas dire ce que vous pensez.
Oh, ouais, je comprends. Non, mais ça sonne bien. Et puis, c'est vendeur en plus.
Exact.
Dick Tracy, oui.
Et justement, tu dis c'est vendeur. Il a été instantanément populaire. Il est apparu dans les divers journaux à travers l'Amérique. Sa popularité a entraîné la création de nombreux produits dérivés, des romans, des jouets, des jeux. Cependant, Dick Tracy a été attaqué par certains journalistes parce qu'ils le jugeaient trop violent. Il faut comprendre. Les bandes dessinées du début du 20e siècle...
Mais c'était deux domaines complètement différents. C'est pas du journalisme, voilà. Quelque part, oui, mais...
On n'aimait pas le fait que auparavant, les bandes dessinées, les comic books, les comic strips, étaient plutôt de nature humoristique. Même la police était dépeinte comme légèrement rigolote et bouffonne. Entre en scène Dick Tracy, et dès sa première apparition, le lecteur est confronté au concept de meurtre.
Ah!
Le meurtre n'existait pas dans la bande dessinée auparavant.
Oui.
Et les méthodes avec lesquelles Dick Tracy combattait le crime étaient aussi très violentes. Il n'hésite pas à tuer carrément les criminels.
Est-ce que c'était une entrave au travail des journalistes?
Ben, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se plaignaient que c'était trop violent. Ah, c'est pour ça qu'il y en a.
Ils ont commencé à critiquer.
Voilà.
C'est d'accord.
Dick Tracy est aussi le premier personnage héroïque à avoir ce que l'on appelle en anglais un rogues gallery, c'est-à-dire une liste d'adversaires de méchants importants et quelque peu récurrents. D'ailleurs, certains des méchants de Dick Tracy sont devenus très, voire même trop, populaires. En 1944, le criminel à la tête plate, Flat Top, meurt par noyade. Mais comme c'est un tueur charmant, certains lecteurs ont pris sa disparition à cœur. Gould a d'ailleurs reçu des télégrammes de personnes proposant de réclamer son corps, et certains des bureaux qui publiaient le comic strip ont reçu des arrangements fleuraux et des cartes de sympathie. Tout ça pour un personnage fictif. C'est quand même intéressant.
Non, tu as vu ma position, là? Non, je...
on va dire, tu es flabbergasté.
Voilà, je suis...
Un autre détective de l'époque...
Non, je reviens sur ça.
OK, il faut en parler. On envoie des cartes de sympathie pour un
personnage.
Et d'ailleurs sur l'image que je t'ai fournie, on le voit flat top ici. Là. Il y a vraiment une tête aplatie comme tel un marteau.
Oui.
D'ailleurs, tous les criminels de Dick Tracy... sont des criminels avec des traits anormaux. Oh, voilà.
C'est vrai, c'est spécial. Hein? Ouais. Comme s'il venait de porter quelque chose sur sa tête ou bien le coiffeur complètement aplati le haut de la tête. Quoi. Les cheveux sont des deux côtés, mais là, et puis même... attends, je reviens...
Il veut absolument me garder fort les cartes de sympathie, des fleurs.
Des fleurs, des cartes de sympathie pour un personnage de comic book, de bande dessinée.
Absolument. C'est quand même quelque chose. Ça prouve la popularité. Ça prouve à quel point ça a marqué les gens. Les gens étaient friands de ce genre de publication et de ce genre de personnage. Comme je te dis, c'est un criminel. On n'envoie pas des fleurs à Dick Tracy. On envoie des fleurs à Flat Top. Quand même! C'est assez spécial.
Un personnage, même pas un être humain vivant.
Non.
Qui est mort. Qui est...
Absolument.
OK, d'accord. Nous, on n'est pas arrivés là, toi et moi.
Non, ça s'en vient.
Oh là!
je vais terminer là-dessus, puis je vais faire une deuxième partie la semaine prochaine.
Parce que là, j'ai dit non, il faut que je... Allez, on y va.
Un autre détective, Dan Dunn, qui est un détective créé par Norman W. Marsh, est apparu pour la première fois dans Detective Dan, Secret Operative Number 48, un comic format tabloïd qui a été publié en 1933. Puis, Dan Dunn apparaît dans les journaux dans son propre comic strip de 1933 à 1943. Dandon, c'est une pâle imitation de Dick Tracy. Même style vestimentaire,
oui.
Même mâchoire carrée.
Mais...
il tue des criminels de la même façon. Il n'a jamais approché la popularité d'un Dick Tracy.
C'est... mais c'est pas la même couleur de chapeau non plus.
Non, hein, c'est sûr. Et c'est pour ça Dick Tracy est beaucoup plus distinctif avec son chapeau jaune.
Ouais,
et son
parce
uniforme.
Que c'est disons, c'est... ouais, c'est pas ça, c'est pas neutre cette couleur.
C'est ça, exact. Et donc Dan Dunn, voilà. ça n'a pas marqué c'est l'imaginaire si, autant que.
C'est comme si here I am, yeah, it's me.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Il y a plusieurs détectives à l'époque qui empruntent ce même look, faut le dire. Et même il y a des couvertures de Pulp Magazine avec ce même genre de détective avec un manteau, avec un chapeau, tout ça. Il y en a plusieurs. Ben tu sais, je vais terminer là-dessus parce que la semaine prochaine, je te reviens avec la deuxième partie.
Oui.
Parce qu'il y a quand même une deuxième partie. Il y a d'autres détectives et il y a des publications dédiées aux détectives que je vais te parler la semaine prochaine.
Voilà, mais je reviens sur cette histoire. quelques minutes.
Oui.
Je reviens. Bon, ça, c'est... j'aime bien ça aussi. Bon, Dandon, il y avait le Detective Magazine.
Oui,
ça, c'est
oui.
Le numéro de novembre.
Là, il faut l'expliquer aux gens qui écoutent à la maison, parce que oui, j'offre des aides visuelles à Fulgence.
J'ai
là.
Tout ça en face de moi ici. Bon, on n'est pas à la télé pour vous montrer.
Mais si vous voulez en savoir plus sur les personnages ou sur les publications que je vous parle, vous pouvez faire aller à votre moteur de recherche que vous voulez, puis vous tapez ça, puis vous retrouvez. C'est très facile à trouver. Donc voilà, comme je te dis, Dandon, non, pas très populaire. Dick Tracy, plus populaire.
Ben, il a voulu essayer de prendre un peu le style de Dick Tracy.
Ah oui, c'est la même chose.
Voilà, c'est
la seule chose, c'est qu'il n'y a pas de méchants attitrés. C'est vraiment des criminels ordinaires qui font des crimes, en guillemets, ordinaires. Mm. Donc voilà. D'ailleurs, je vais revenir sur Dick Tracy. Mm-hmm. En réponse au fait que certaines personnes se sont plaints de la violence du personnage, Chester Gould a répondu aux critiques et il a affirmé, je cite, « Le travail de la police est le plus sanglant et le plus misérable sur Terre. N'importe quel policier de service en service de nuit voit beaucoup plus de sang que je n'en ai jamais mis dans ma bande dessinée. » Donc pour lui, d'ailleurs Chester Gould, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup basé sur les véritables techniques policières d'enquête pour faire son personnage.
Pour faire son personnage,
Tracy.
Effectivement.
Bah, voilà. Exemple,
moi, c'est pas un métier que je peux faire parce que sincèrement, le sang, j'ai horreur du sang.
Ah.
Et puis j'ai horreur de voir quelqu'un souffrir.
Ouais.
Un accidenté ou bien quelque chose comme ça. Et tu vois, c'est des choses qui. Ah non, j'aime ça parce que c'est. C'est fight or die, c'est-à-dire lutter ou mourir, quoi.
Voilà.
Battre ou mourir. J'aime bien ça. Mais il n'a pas été aussi populaire que.
Non, du tout.
J'aime bien ça aussi, un Detective Comics.
Ah non, mais ça, j'en parle la semaine prochaine. Alors, parce que là, ça, c'est spécial.
Ça, c'est...
c'est une couverture très spéciale. Non, il faut que j'en parle la semaine prochaine.
D'accord,
parce que
d'accord.
C'est une couverture controversée et voire même assez intolérante.
Slam Bradley aussi.
Ah oui, Slam Bradley. On en parle la semaine prochaine pour la deuxième partie.
Merci beaucoup, Christian Lacasse.
Ça fait plaisir, puis je
bon week-end, et puis on se retrouve le vendredi.
Bon week-end à toi.
Merci à toi aussi. Oh, I can feel you out of reach. Oh, I can see the way you look at me. This hollow space here in between. Lately you've been drifting further away from me. Speak, let all the curtains fall down. Don't wanna talk. Lay
is it down? Oh, 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 oh. I would rather you just break my heart than leave me hanging on the edge of what was once. Speak, speak, don't let this love hold you down.
Loïso, oui. Loïso, speak, acoustique, en piano bien sûr, c'est quand même lui-même. Voilà, je continue comme ça, je vais continuer avec cette histoire de d'occasion de bénévolat parce que là, je t'ai coupé avec la petite pause publicitaire. Je reviens là-dessus avec les gens qui doivent aller. Voilà, c'est l'occasion d'accompagnement à son rendez-vous médical. J'avais fini avec ça. Animateur bénévole, c'est de là que j'étais arrêté. C'est l'activité d'animation ou de co-animation est une fois par semaine, parfois une fois par mois, du jour, du soir ou la fin de semaine, selon les disponibilités et les intérêts du bénévole. Donc le bénévole peut ou doit assister aussi aux rencontres de formation, de supervision qui sont offertes par deux professionnels ferrés dans le domaine de un mardi sur deux de 9h à 12h. Mission de l'organisme, c'est favoriser l'entraide et le bénévolat en santé mentale et briser l'isolement. D'ailleurs, santé mentale, hier, j'avais reçu Chantal Laferrière, qui est directrice générale des Petits Trésors, qui est actuellement en campagne depuis le 26 septembre jusqu'au 28 octobre, une campagne de pour amasser de l'argent pour pouvoir aider cette fondation à s'occuper des jeunes de 0 à 17 ans. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. Qui ont aussi des problèmes de santé et d'autisme. C'est pas seulement les adultes qui souffrent de problèmes de santé mentale. Voilà, même les jeunes, voilà, de 0 à 17 ans, ont aussi des problèmes de santé mentale. Ça touche toutes les couches de la société. Alors, c'était une parenthèse que je voulais faire parce que ça, c'est l'organisme, la mission de l'organisme, c'est de favoriser l'entraide et le bénévolat en santé mentale et de briser l'isolement. Le bénévole aura la possibilité de se joindre à une activité déjà offerte ou en créer une avec le soutien du centre. Et puis lors des groupes d'entraide, les gens peuvent venir briser leur isolement, échanger informellement et ou faire des activités créatives dans un environnement plus positif, respectueux et sain. Il y a quelques exemples aussi d'activités présentes ou offertes dans le passé par le centre. Drop-in, salle de café rencontre, club de lecture, cours de yoga, méditation, pleine conscience. Et puis les rencontres de groupe aussi, ces femmes qui aiment trop. Bien, ancien groupe, voilà, c'est les groupes de rencontres, ces femmes qui aiment trop. Ça fait partie aussi de ces différents exemples d'activités. Voilà. Vous réalisez ou bien vous animerez des activités d'accueil, d'entraide ou créatives visant à promouvoir et puis à développer aussi un équilibre émotionnel et mental. Et puis lors de ces rencontres d'entraide, vous allez aider à favoriser l'immersion dans la vie démocratique, l'inclusion ou au groupe vraiment et les échanges authentiques. Vous allez contribuer à favoriser des attitudes apaisantes. Vous allez aussi assurer l'accueil, l'intégration et l'orientation de nouvelles personnes. C'est tellement prérequis. Ouverture et habileté à travailler avec une clientèle atypique. Voilà, c'est ça. Ça, c'est très important. Prérequis. Voilà. Et ou aux prises avec des problèmes d'isolement social, avoir au moins 18 ans. C'est pas 16 ans ou bien 15 ans, non, 18 ans. Et puis des recherches d'antécédents judiciaires. Le secteur, c'est quoi? C'est Mercier-Hochelaga, Maisonneuve. Voilà. Et j'en avais déjà parlé en début de semaine, toute la semaine, ces différentes occasions. Je reviens comme ça, t'entends là-dessus. Parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas à qui s'adresser. Là, vous vous adressez à la conseillère en orientation et responsable de l'équipe d'accès bénévolat. Accès bénévolat, en un seul mot, .org. Laura Kain, voilà. Ou bien écrivez-lui, envoyez-lui un courriel. Laura, L-A-U-R-A. Kain, c'est C-A-I-N, @accès bénévolat, en un seul mot, sans accent, .org. Ou bien vous l'appelez au 514-523-6599, poste 26. Mais quand vous allez sur le site d'accèsbénévolat.org, org, moi il dit souvent org, voilà, vous allez avoir toutes les informations que je viens de vous donner pour pouvoir remercier à ces gens. Ils auront les 40 ans, hein, bientôt, là, pour ceux qui ont... J'en ai parlé d'ailleurs hier, bien avant-hier. Ceux qui aimeraient les aider pour le jeudi 20 octobre, entre 15h30 et 19h30, pour les 40 ans de cet organisme de bénévolat, ils ont encore des opportunités, des offres là-bas. Appelez-les, contactez-les, adressez-vous à Laura Kane pour pouvoir dire, bon, bien, je suis disponible entre 15h30 et 19h30 pour donner un coup de main, pour recevoir les gens qui vont arriver, les inviter, tout ça. Voilà. Je pense que j'ai quelques minutes encore. Oui, si je ne me trompe pas. Oui, je vais parler un peu de programme de subvention. Un programme général de subvention du Conseil des arts de Montréal. Date limite le 24 novembre. Aide aux projets pour les organismes. Si votre organisme a un ou des projets ponctuels en vue pour contribuer au développement des activités artistiques, et ces projets peuvent être soutenus financièrement dans tous les domaines artistiques, hein, et à toutes les étapes de ceci. Pour ce programme, il y a 3 appels de candidature qui sont prévus chaque année. Prochaine date limite de dépôt, 24 novembre 2022, mars 2023 et septembre 2023. C'est très important. Allez-y sur le site du Conseil des arts de Montréal. C'est art@montréal.org, /aide/programme, aide, projet, organisme. J'ai dit bien 24 novembre 2022. Voilà. C'est le mois prochain. Mais faites vite quand on doit rassembler des papiers, des documents, des machins, tout ça. À un moment donné, il faut se dire, voilà, j'ai pas assez de temps pour déposer mon dossier, j'attends l'année prochaine, alors que vous êtes en situation financière qui ne vous permet pas, en difficulté financière qui ne vous permettra de faire avancer votre projet. Donc, faites-y. Veuillez prendre, c'est jusqu'à 17h, le 24 novembre 2022, à 17h pour envoyer votre dossier le jour de la date limite de dépôt. Voilà, c'est intéressant. Quels sont les objectifs? Le programme soutient la recherche, la création, la production, la diffusion de l'art et la mise en œuvre d'activités artistiques et ou de services contribuant à l'amélioration des conditions de pratique des artistes. Donc c'est un appui financier qui contribue aussi à l'accomplissement du mandat des organisations des milieux artistiques. C'est un soutien aussi qui soutient aussi l'excellence artistique et encourage le rayonnement de l'art. C'est ça, sous toutes ses formes auprès de divers publics. Il vise également à renforcer les organismes, les stabiliser, les aider à développer des réseaux et de soutien et d'entraide. Et puis je pense que ce projet, voilà, c'est si vous ne savez pas comment faire, essayez de vous adresser, téléphoner là-bas, allez-y sur le site, écrivez à quelqu'un, appelez quelqu'un pour dire « Je ne sais même pas par où commencer, est-ce que je suis admissible ?» Voilà, non, c'est ça aussi. C'est la recherche, la réaction, la création, la production, la diffusion, la mise en œuvre d'activités dont il faut... c'est faisable, voilà. Faut bouger pour aller chercher un peu l'aide du Conseil des arts de Montréal. Ouais, quelle est l'aide accordée? L'aide accordée, c'est pour la réalisation d'un projet artistique spécifique découlant du mandat de l'organisme ou de la coopérative. La durée du soutien est ponctuelle et non récurrent. Voilà, il est ponctuel le soutien, il n'est pas récurrent. Le projet doit se réaliser aux dates prévues dans la demande. Est-ce que le projet peut être entièrement financé par le conseil? Non, c'est 75% du coût du projet. Non, c'est pas 100%. Donc, il faut avoir un petit budget à soi, si je ne me trompe pas, voilà. Et puis, pour avoir une idée des montants généralement octroyés, vous pouvez consulter la liste des subventions accordées. Et puis, vous allez trouver tout là-bas. Voilà. Sur ce, je vous dis, on est à la fin de l'émission comme ça pour aujourd'hui. Je vais revenir de temps en temps là-dessus. Ils ont tellement de projets général de subventions. Et puis, je reviens pour les artistes qui ne savent pas où aller s'informer, comment appliquer. Merci à toi, Maurice. Belle fin de semaine, Maurice Bolduc. Porte-toi bien, on se retrouve le lundi. Et je dis merci à notre invité Jean Roy qui est venu parler de la série documentaire Du côté des hommes. Merci à Christian Lacasse qui est venu nous parler de la Ligue de l'intrigue policière et des grands détectives des années 30. Merci à Catherine Bouderon pour les recherches de toute la semaine. Et merci à nos fidèles auditeurs qui nous suivent depuis le début de l'émission. Et puis on se retrouve. Prenez soin de vous. Belle fin de semaine à tout le monde. Et sur ce, je vous dis ciao.